Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, donc on avait commencé ce matin par deux présentations et une table ronde d'une manière plutôt chronologique. Donc on avait parlé un petit peu de la première génération, la première vague, hein, 76, on va dire 80, on élargit jusqu'au mi-année 80. Donc cet après-midi, on va avoir plusieurs interventions. Donc une première qui va être celle de Samuel sur les fanzines et son travail voilà, sur les fanzines Canet. Ensuite, il y aura une deuxième table ronde qui va interroger le milieu des années 80, on va dire jusqu'au mi-90, un peu plus. Donc il y aura plusieurs intervenants. Donc il y aura Francis, Pascal, David, Pascal et Jean-Luc qui viendront expliquer un petit peu leur parcours de musicien, mais aussi de disquaire, d'organisateur de concerts, etc., aussi bien dans le Calvados que dans la Manche. Et ensuite, on terminera par une dernière table ronde, enfin une présentation de Simon Le Roulé et une table ronde autour justement de la scène plutôt do-it-yourself actuelle. Donc avec aussi des intervenants, puisqu'il y aura Mewen, Thomas, Pierre, Maxime et Oliver qui viendront évoquer un petit peu leur expérience de cette scène et du do-it-yourself. Donc voilà, là je vais laisser la parole à Samuel pour qu'il nous parle un petit peu des fanzines, donc une dizaine de minutes ou cinq minutes, et ensuite j'appellerai les intervenants sur la seconde table.
Merci Christophe. Oui, moi je vais, c'est pas une communication dans les règles de l'art, ça va être très rapide. Donc on a fait en partenariat avec la Fanzinothèque un affichage de fanzines, enfin de couvertures ou d'extraits de fanzines bas normands, pas que Canet, hein, comme l'a dit Christophe. Donc on a essayé de ratisser un petit peu large, mais à partir de notamment du fond de la Fanzinothèque et puis le mien également. Alors sauf que moi je suis breton, donc vous imaginez bien que les fanzines normands, j'en ai pas beaucoup. Voilà. Donc c'est incomplet et déjà ce qui est bien, c'est d'ailleurs le but de ces journées, c'est d'identifier éventuellement ceux qui manquent. Alors juste quelques mots rapides pour vous dire donc en même temps que le punk est apparu dans la région, on a eu les médias punk, les fanzines DIY, do it yourself, faits par les acteurs du punk. Alors souvent les gens qui sont pas musiciens, qui savent qu'on pas trop envie de monter sur scène, ils vont se mettre à supporter le groupe en sortant des cassettes, en sortant des compiles ou en écrivant dans des journaux, en faisant des fanzines. Donc qu'est-ce qu'on a ici parmi les plus anciens, alors je vous dis que j'ai retrouvé, mais il y en a d'autres, on va parler de la crise tout à l'heure, Burning Rome, c'est à peu près 1980-83, ça parle pas que de punk, c'est punk, on va dire post-punk, enfin new wave comme on en parlait à l'époque. Là vous voyez ce numéro 5, c'est The Addicts, Lord of the New Church, etc. Juste un petit mot, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des comptes rendus de concerts. Donc on parlait tout à l'heure du concert Skin Corpse, Brainwash, tout ça. On a les comptes rendus assez détaillés de ces concerts-là. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, ces fanzines qui souvent sont tirées à 10, 50, 100 exemplaires, qui disparaissent, mais c'est bien de les retrouver. Pour l'anecdote, je le disais tout à l'heure, il y a un point commun entre les Undertones, qu'on a entendu tout à l'heure, et quand c'est Burning Rome. Parce que Burning Rome, ça a été fait par quelqu'un qui s'appelle Lydie Goubard, qui est plus connu sous le nom de Lydie Barbarian, hein, qui a écrit pendant très longtemps dans Libé, qui était correspondante de Bernard Lenoir à Londres. Donc voilà, c'est Lydie Barbarian qui, je crois, vit toujours à Londres. Je devais l'interviewer hier, bon, on n'a pas pu, mais ça va se faire un petit peu plus tard. Ensuite, Blasphème. Donc je vais les mettre dehors, vous pouvez les consulter. Blasphème, c'est de Mésidon. Donc là, on est plutôt au milieu des années 80. Donc on a toujours cette esthétique classique, tu connais ? Bon, très bien. Eh bien, donc associé à la Musaraigne, une association. Ensuite, on va avoir, toujours en même époque, on va avoir Anthrax. Donc là, milieu des années 80. Donc il y en a plusieurs. Hein, c'est là qu'on a le Chaos Festival d'Orléans. il y a un compte-rendu. Donc en même temps, ce sont des fanzines locaux, hein, c'est de Caen, mais ça ne traite pas que de la scène cannaise. On a des scène reports sur la scène anglaise. Alors ça montre les connexions qu'il y avait. Hein, on a des scène reports assez détaillés sur une scène émergente punk dans un coin de l'Angleterre. On peut se demander ce que ça fait dans un fanzine cannais, mais ça montre que les acteurs traversent la Manche assez facilement. Le compte-rendu du concert pardon, dont je vous parlais tout à l'heure, Brainwash, etc., le mélange des genres, parce qu'on a Dry O'Clock, Skin Corpse, Chromosome 4, voilà, donc on a... ensuite, on va voir les temps modernes, il y en a qui ont abusé de la quéquette, là, hein, les temps modernes, donc là, on est les temps modernes, c'est Saint-Lô, oui, c'est Saint-Lô. Alors, les temps modernes, justement, on voit qu'on n'est pas tout à fait sur Caen. Donc, il y a beaucoup de comptes-rendus de concerts sur Rennes. On voit bien comment ça rayonne. Il y a les comptes-rendus de concerts des interviews, du groupe Rennais, etc. Ça, on est déjà fin des années 80. Ensuite, on va voir Usine. Là, on est années 90, 11, 12. On voit bien sur le compte-rendu Killing Joke, OTH, Les Clandestins. On est sur rock alternatif, rock au sens large. Hein, on est plus sur le punk 76, tel qu'on pouvait l'évoquer tout à l'heure. On a des interviews. Bah, vous voyez, c'est un fanzine, mais il y a comme une interview de Nirvana hein, lors du passage aux trans. Donc voilà, les fanzines ont malgré tout accès à des groupes, des grands groupes, Sonic Youth, etc. Donc ça vient s'élargir. Ensuite, on va avoir pour les scènes plus récentes, on aura Abstraction. Donc là, ça va être affiché. Je vous les cite en vitesse. Abstraction, Tour-la-Ville. Abstraction de Tour-la-Ville. Horizon de Caen. Là, on est en 2000-2002. Inertie, 2004. Inertie, c'est de Eckerdreville. Et puis pour le plus récent, alors là, vous le trouverez notamment sur la partie gauche, ça va être Forgono. Alors Forgono, c'est fait par Fred Le Rocher, qui depuis 1998 fait un fanzine qui s'appelait Le Râleur, puis La Grosse Râleuse, 1996-1998. Et en 2008, il a repris un fanzine qui s'appelle Forgono, qui est vraiment de la littérature gonzo, c'est-à-dire il voyage, il va en Indonésie, et il fait des scènes report sur les scènes punk en Indonésie, mais c'est un peu le guide du routard punk. Voilà, donc ça s'appelle Forgono, c'est toujours actuel. Le dernier numéro, c'était en janvier 2017. Donc j'ai mis des extraits avec son autorisation, vous pouvez le lire, et puis autrement, vous les retrouvez.
On soutient le mouvement pour l'Indonésie, carrément, à mort.
Super. Et ben voilà, il y a Forgono qui soutient aussi et qui le détaille. Donc vous avez l'occasion, voilà, vous pourrez regarder les fanzines, je les mets sur les tables dehors. Et puis. Et puis vous pouvez contempler, voilà. C'est bon pour moi.
Les deux, vous faites. Ouais. Donc je vais appeler sur la deuxième table ronde. Donc Francis, Pascal, il y a Jean-Luc. David et Pascal encore. Donc je vous propose de venir et puis de discuter un petit peu de cette seconde vague, c'est-à-dire plutôt mi-année voilà, 85-86 jusqu'au milieu des années 90. Donc à travers votre parcours, à travers votre expérience de musicien, etc.
Juste, les locaux ils sont prêtés, c'est cool si on fait gaffe aussi quand même un peu. Non mais c'est voilà. Et on va essayer de lancer un peu la discussion avec essayer de réfléchir un peu à comment ça s'est organisé à la fois au niveau de Caen, mais aussi à des liens avec d'autres villes. Parce qu'on a vu tout à l'heure sur la présentation, sur la première vague, pas mal de choses qui se passent à Hérouville, pas mal de choses qui se passent finalement pas directement à Caen, et notamment une scène qui existe et qui est bien vivante à Lisieux et dans la Manche aussi. Donc l'idée, ça va essayer de partir de Caen et de voir un peu comment ça se structure aussi ailleurs, s'il y a des liens avec le reste du territoire bas-normand et ailleurs. Notamment, on sait qu'il y a des gens, notamment dans la Manche, qui pouvaient organiser des concerts, des fois jusqu'en Bretagne. Donc on va essayer de causer de tout ça. C'est vrai que décentrer un petit peu le regard, sortir un peu de, de Caen, c'est aussi voir des choses qu'on n'imaginait pas. On a parlé du festival de Port-Bail en 85, là, dont il y a l'affiche. Et c'est assez étrange de voir un festival comme ça quand on connaît Port-Bail, qui est juste une petite ville où il ne se passe pas grand-chose, de voir une scène vivre à ce moment-là. Ouais. Et du coup, on va essayer de partir un peu de tout ça. Je ne sais pas comment vous voulez procéder de votre part. Moi, j'aurais bien donné la parole peut-être d'abord à Francis, donc du coup, qui joue dans les Primitives, pour faire le lien avec ce qu'on a vu, puisque Primitives était passé dans l'émission de Jean-Loup à l'époque. Il y a des vidéos encore sur Internet où tu es tout jeune. Et du coup, parler un petit peu de ce que ça faisait en fait d'être le rapport à Caen, si vous étiez à Lisieux, me semble-t-il. C'est de voir après, on va partir un petit peu de ça, de comment depuis vos localités il y avait cette espèce de scène, si les gens se rencontraient ou pas. Et voilà.
Bonjour. Difficile de résumer ça en quelques mots, mais oui, en fait, nous, on était Primitives, c'était originaire de Lisieux au départ. Mais on était entre Lisieux, Trouville, Caen. Ça a pas mal évolué en fonction des membres des groupes qui pouvaient changer parfois. Mais voilà, donc bon, on était un peu isolés, on peut dire, au départ. Mais on a rapidement rencontré des gens qui nous ont proposé de jouer, qui nous ont proposé après, avec Alternative, le magasin de disques bien connu à Caen, de sortir un 45 tours. Voilà, donc on était là-dessus. C'est vrai que par rapport à la scène cannaise que moi j'ai connue un peu plus tard, on était un petit peu dans notre coin, un peu le punk rock rural, quoi, on va dire, de la campagne au départ. Là, c'était Doberman. Donc Pascal, qui jouait dans les Primitives, a joué avec Doberman après. Et c'est vrai que quand Christophe m'a parlé de cette journée, je lui disais que j'étais pas forcément qualifié pour le punk cannais ou le punk régional, parce que il me semblait qu'on n'était pas un groupe punk au sens strict du terme, mais qu'on était plutôt dans le punk rock, dans tout ce qui existait,
dans le rock'n'roll
aussi, et dans tout ce qui existait au niveau du punk depuis le début, quoi. On avait peut-être une tendance à écouter aussi tout ce qui se faisait dans les années 60, notamment tout ce qui était garage et tout ce qui était le début du punk rock avec les Sonics ou les Stooges, qui à mon sens sont les premiers à en avoir fait, quoi. Voilà, je sais pas, okay. Simon, c'était quoi ta question exactement?
Non, mais c'est un peu ça. Après tu peux peut-être passer le micro à ton collègue de l'Exovien et Trouvillet, pardon. Vous, les Primitives, vous commencez quand
Voilà, moi je suis une pièce rapportée, je suis arrivé vers 87, moi. Ouais. Ça existait avant déjà. Ça s'est structuré à partir de 87, quand je suis arrivé, quoi, on va dire.
Ouais, on avait la chance aussi de connaître on avait des amis qui bossaient dans des associations sur Paris, Warhead notamment. On a commencé assez rapidement par avoir des propositions de faire des premières parties, notamment, je crois que c'est 88, on joue avec la souris des Glingués et les Meteors. Donc c'était pour nous quelque chose d'assez impressionnant. Et après, on a, même si on n'était pas un groupe réellement punk, quoi, on a joué et on en écoutait, et on a joué souvent avec des groupes comme les Wampas, comme les Rats, comme ce genre de groupe.
D'accord. Et du coup, pour ce qui est de Alternative, je sais que c'était un magasin de disques devant lequel moi je passais quand j'étais gosse, et où effectivement il y avait aussi tout un truc, toute une imagerie. Quand j'étais gosse, j'étais « c'est quoi ce truc de fou ?» Et en fait, plus tard, j'ai pas mal de copains de la génération avant la mienne qui du coup me racontaient comment ça a été important pour eux, c'est-à-dire comment à partir d'un magasin de disques, et notamment quand on en discutera tout à l'heure, au moment de Paranoid Records, donc un disquaire qui a existé plus tard, ouvert par Nico et David, il y avait cette idée de reproduire un petit peu ce truc-là, d'avoir un endroit où les gens se retrouvent.
Ils ont racheté une partie du matériel de présentation d'Alternative. Ouais.
Et du coup, Alternative, ça a commencé quand et qu'est-ce que ça a permis d'après toi
Alternative, ça commence en mars 88 et ça dure pas tout à fait 15 ans, 13 ans exactement, jusqu'en février 2001.
Ok.
C'est une part importante quand même du rock à Caen et du punk en particulier, même si c'est tardif par rapport à tout ce qu'on a vu ce matin sur les premiers groupes punk et notamment la première vague punk et les premiers groupes punk de Caen. En même temps, on a vécu un peu ça aussi par procuration, on est peut-être plus jeune. Donc moi, en 77, j'avais 15 ans, j'habitais, ce que je disais ce matin, à 30 km de Caen, encore plus loin de Paris et encore plus loin de Londres, donc c'est pas facile. Pas de grand frère pour m'éduquer à ce genre de musique, donc il faut se faire un peu soi-même. Un cousin plus jeune, moi, qui m'a fait connaître par exemple les Stranglers en 79, quelque chose comme ça. Mais bon, il était plus jeune, donc c'est venu aussi tardivement. Et puis voilà, c'était ça. Après, je suis parti sur Paris, donc 2 ans à fréquenter Neurose assidûment, la bonne époque. Bien sûr, les voyages en Angleterre, les concerts en Angleterre, les achats de disques d'occasion à pas cher dans les Records and Tapes Exchange. Donc tous les magasins où on trouvait du vinyle au kilo en Angleterre, qu'on ramenait bien sûr. Et puis après quelques expériences professionnelles, l'envie de monter une structure sur un peu ce modèle-là, donc sur l'achat et la revente de disques d'occasion. Donc c'est ce qui s'est fait à Caen, donc en mars 88. Donc bien punk, hein, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, je me souviens très bien du premier article du Petit Futé après l'ouverture du magasin, et ils avaient appelé ça le squat en noir et vert, pour vous donner une idée. C'était des tas de disques vinyles qu'on avait ramenés d'Angleterre. J'allais une fois par mois en Angleterre, je remplissais le coffre de la voiture, c'était à peu près ça. On ramenait, on vendait. L'idée, c'était d'acheter des disques. À l'époque, c'était de mémoire en francs, bien sûr. C'était une quinzaine de francs et on devait revendre une trentaine de francs. Donc on faisait les culbutes moins la TVA. Voilà, c'était le deal, c'était ça. Et pour les gens qui revendaient leurs disques, c'était ça. On achetait le disque et on leur vendait. Double de ce qu'on l'avait acheté, moins la TVA. Voilà, c'était l'idée, le concept. Sauf que ça n'a pas duré longtemps parce que les gens avaient une autre demande. Ils ont commencé à demander du disque neuf, ils ont commencé à demander du disque rare de collection. Donc il a fallu qu'on change un petit. On a continué jusqu'à la fin à faire ce genre de choses. Mais à côté de ça, on a complété avec très vite donc du disque neuf. Donc bien sûr, à l'époque, on était en pleine vague alternos française. C'était vraiment le haut de. Il y a déjà quelques années que ça existait, mais c'était vraiment le haut de la vague, là, avec tous les groupes. Beru était déjà couronné de succès. On était en plein Ludwig, on était en plein Washington Dead Cats, on était en plein. C'était les années Bondage. Et donc j'allais à Paris chercher les disques de Bondage. Et c'est là que j'ai connu Marsu, d'ailleurs, que vous connaissez peut-être. Manager des Beru et Noirs. Et. Si tu veux, ça va lui faire plaisir. Et longtemps que ça n'a pas dû lui arriver. Et voilà. Et donc, on avait commencé avec un petit. Alors, je dis nous, parce qu'en fait, dès le début, j'ai commencé avec mon acolyte, qui était mon employé, mais qui était mon ami, avec lequel j'avais déjà fondé une première mouture de groupe punk, on va dire, en 84, je crois. Donc, c'est Christophe Farolet, hein, que je côtoie toujours, d'ailleurs. Oui, et puis ça c'était la première mouture quand je suis rentré de l'armée, donc j'avais pris 6 mois de congé sabbatique et on a monté un groupe.
On n'aurait pas dû faire l'armée.
J'avais pas le choix.
J'ai arrêté de côté la gueule et j'ai pas fait l'armée.
C'est pas le débat.
Ouais. Et donc après, quelques années après, je l'ai retrouvé pour monter le magasin et après pour remonter aussi un autre groupe derrière. Donc le magasin, un peu de vinyle, c'était bien sûr du vinyle, à l'époque il y avait juste une poignée de CD, c'était le début du CD. Et des CD qu'on avait racheté à l'époque à la fermeture au domaine du disque. Alors ça, il faut que je précise aussi, c'est qu'à l'époque les disques étaient à Caen, si ma mémoire est bonne, le domaine du disque a fermé juste avant qu'on ouvre. D'ailleurs on a acheté beaucoup de matériel, notamment tous les casiers de rangement des disques et tout au domaine du disque, pour pouvoir faire ce qu'on n'avait pas à faire. On n'avait pas d'argent, hein, donc on a commencé sans quasiment rien. Il y avait, en francs, il y avait 10 000 francs de stock. Quoi. Il n'y avait rien. C'était rien. Mais bon, ça a commencé comme ça. Et il existe encore Nuggets, donc l'ancien California Music était converti en Nuggets. Bliss Music devait être fermé, je pense, de mémoire. Alors Sweet Harmony, il y avait déjà longtemps. Hein, et je crois que c'est tout ce qu'il y avait. Je demande aux gens qui étaient de camp à l'époque Mes propos sont confirmés, mais je crois que c'était ça le paysage. Donc, en fait, la FNAC a ouvert, il n'y avait plus personne à part Nuggets et nous. Ils venions d'ouvrir. On le savait, hein, qu'ils s'installaient, mais bon, ça a été quand même un. Pour le disque à Caen, ça a été quand même un choc, et encore pire pour la BD d'ailleurs. Hein. Tous les marchands de BD ont fermé quasiment l'ouverture de la Fnac. Hein.
Et quelques années plus tard, il y a eu, je crois, Compact Boutique qui était au niveau de la rue Saint-Pierre.
Bien plus tard. Ouais. Bon, oui, il y avait quelques.
Après la Fnac, quoi. Après l'installation de la Fnac.
Disquaire très chanson française, ouais. ou disque collection comme Clairin, par exemple. Oui, ça, il y avait aussi. Il ne faut pas les oublier, c'est sûr, ils avaient leur rôle. Hein.
Et justement, moi, j'ai une question aussi pour Manchot et pour Momo. Justement, quand il y a peu de magasins, comment, quand on habite Trouville, hein, et puis quand on habite dans la Manche, comment on fait pour essayer d'aller chercher cette musique et puis de la découvrir dans un environnement un peu rural, on va dire. Comment, voilà, vous passiez par quel canot, etc., pour découvrir et pour aller chercher cette musique?
Bah, il y avait le stop. Après, c'est bouche à oreille, c'est les radios qu'on essaye de capter de Londres, voilà, c'est toutes les radios anglaises, c'est beaucoup de copies de cassettes, voilà, on se fait ça.
Et le stop, c'est quoi, là, pour faire quoi? Pour aller où?
Non, bah, c'est pour se faire son stop, c'est compliqué, c'est très dur, quoi. Il y a des groupes que tu découvres 2 ans après qu'ils aient splitté, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. C'est beaucoup plus difficile, même si 85, on va dire, ça c'est quand même beaucoup plus structuré, quoi. Mais il faut savoir que quand tu habites dans une petite ville dans les années 80, par exemple, t'as rien, quoi. T'as rien, t'as pas internet, t'as pas de télé, donc il faut arriver à te débrouiller par soi-même, par les copains, quoi. C'est comme ça que tu y arrives, quoi.
Ouais, donc
excuse-moi, juste 10 euros par rapport à ce qu'a été dit ce matin, justement, dans les émissions de radio et choses comme ça. Il faut savoir que dans les années 70, quels étaient les foyers qui avaient des radios FM? Il n'y avait pas de FM, il n'y avait pas, hein, c'était RTL, c'était quelques-uns arrivaient à capter la BBC, point barre. 80, les radios libres, ça a démarré, mais c'était...
Pour le rôle essentiel des magasins de disques, hein, à l'époque, qui était à la fois un lieu de rencontre et de découverte. Nous, à Cherbourg, on avait la chance d'avoir la boîte à disques, et puis Contraste. Donc la boîte à disques, c'était un mec qui s'appelait Luc, qui a tenu ça assez longtemps, jusqu'à fin des années 80, quoi. Et donc le gars, pareil, tu disais, il allait en Angleterre une fois par mois, il remplissait sa 4L de disques, et puis il les ramenait, il les mettait en vrac dans la boutique, quoi, et puis... Donc il y avait à l'époque j'avais 14-15 ans, je cherchais les cours en quatrième, tu vois, pour aller au magasin de disques. Il y avait les plus vieux qui étaient là, qui avaient déjà fait leur sélection. C'était un peu la guerre, tu vois, mais on passait les après-midi à écouter des disques, à fumer des clopes dans le magasin, et puis à échanger. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est tous rencontrés, que voilà, on allait les uns chez les autres. Il y en avait un qui était plus vieux que moi à l'époque, qui bossait, donc qui avait des thunes pour acheter des disques. Qu'on achetait un gars qui s'appelle Ferraille, quoi. Certains connaissent. Lui, il achetait 20 disques à chaque fois qu'il foutait les pieds dans le magasin, quoi, parce que le mec, il était maçon, il gagnait sa thune à l'époque quand même. Et donc, du coup, il nous faisait des cassettes. On allait chez lui le samedi ou le dimanche après-midi, on buvait 2-3 bières, on était gamins, mais bon, il nous faisait des cassettes. Et puis, voilà, il y avait Neurose où on pouvait commander. Moi, je venais souvent à Caen, parce que c'est un peu comme ça que j'ai découvert le punk aussi, parce que mon cousin était. Ma famille habitait à Caen, et puis mon cousin était pote avec. À ce moment-là, les mecs des Spurs, tout de Falkland, quoi. Ils étaient ensemble à Liendé, à Aéroville. Donc, ça, j'ai connu un peu ces gens-là. Et puis, découverte aussi. Arrivé même d'appeler du cabine téléphonique à côté de chez moi, à la radio à l'époque, s'il y avait une émission de dédicace. Donc, je ne la captais pas à Cherbourg, bien sûr. Et des titres que je voulais, mon cousin les enregistrait en cassette et me filait la cassette qu'on se voyait. Enfin, bon, donc, voilà, quoi. Mais Cherbourg, bon, malgré tout, il y avait. À l'époque, c'est pareil, on parle de nombre limité de gens, hein, les punks à Caen, s'il y en avait 50, c'était un maximum. Enfin, les gens qui se reconnaissaient pas, il y avait les gens qui gravitaient autour. À Cherbourg, c'était 10-15 personnes, quoi, avec peut-être quelques gens. Voilà, même tous les concerts, Pascal en parlait après, parce que lui, il organisait pas mal de concerts dans la Manche, etc. Il y avait 200-300 personnes, avec des gens qui venaient de Paris, de Caen, de Rennes, de Cherbourg, etc. Donc c'était quand même... un nombre limité de gens qui étaient impliqués là-dedans. Quoi.
Ouais, c'est ce que j'ai pu comprendre des discussions qu'on a eues, c'est qu'en gros, il y a quand même une mobilité, quoi. Ça, les gens bougent en fait beaucoup d'une ville à l'autre, etc. Et ce matin, on a parlé un peu du festival de Port-Bail, on a raconté que justement, apparemment, c'était l'arrache sur leur gars jusqu'au bout,
jusqu'à ce qu'il y ait les autonomes de Paris qui viennent pour filer un coup de main, etc. Est-ce que tu peux raconter peut-être un peu les concerts à l'époque? Je sais que tu me disais qu'il y avait quand même cette espèce de truc où c'était la galère pour trouver des lieux. Et du coup, une fois que les lieux étaient trouvés, en gros, on pouvait plus les refaire de concert parce qu'il fallait changer de...
il fallait changer de boutique, quoi. Déjà, quand t'es allé te présenter dans une mairie pour essayer d'obtenir une salle des fêtes, t'enlever les boucles d'oreilles, tu essayais de passer, entre guillemets, tout en gardant une image rock, on va dire, mais t'essayais de te déguiser pour rentrer dans le paysage, quoi. Et puis lorsque l'autre disait « Oui, mais c'est quoi comme musique ?» C'est de la musique rock, quoi. T'étais très vague, quoi. On disait ouais c'est du rockabilly, ouais c'est ça, c'est du rock. Sauf que le jour du concert, il découvrait qu'en fait c'était loin d'être du rock. Déjà parce que voilà, pendant l'extérieur de la salle de concert, c'était l'anarchie, quoi, pour dire autre chose, quoi. Et puis pendant le concert, c'était voilà, et à la fin du concert, les rares rescapés, si tu veux. Se terminer, vous pouvez, dans le milieu de la vie, ce qui fait que le lendemain, si tu veux, quand tu te pointais déjà à la mairie pour rendre les clés, le mec il te regardait avec des yeux écarquillés, quoi, et puis c'était pas la peine de te repointer le lendemain, quoi. Donc nous, dans les concerts qu'on a fait, on s'est expatriés, on l'a fait à Cherbourg, on l'a fait à Romanche, on l'a fait à Rennes. Non, pas Coutances, Saint-Gilles, à côté de Saint-Lô. Auvers, au milieu de la campagne, enfin... Dans les bleds, quoi. Même à Cherbourg, on en a fait un. La salle, c'était du parquet au sol, tu comprends. T'as... Déjà, d'entrée de jeu, ils te disaient « Oui, mais alors pas de bière, pas de ceci, pas de cela, pas de club. » Enfin, c'est du mix, il fallait pas que t'enfiles des... Voilà, t'enfiles des chaussons.
C'était plus tard,
Charles. Ouais, c'était... Alors, si je te parle de Port-Bail, c'était... Faut l'avoir vécu, tous les gens de l'extérieur, quand ils l'ont regardé, l'ont vécu de l'extérieur.
Non, sans déconner, ça commence à être un peu chiant. Les locaux sont prêtés par la bibliothèque.
T'as fait des punks, hein, tu fais du punk. Hein.
Ouais, mais du coup, les locaux sont prêtés, donc
c'est on respecte un peu l'endroit. On respecte, t'inquiète pas.
Divers.
Respect.
C'est juste ce qu'on dit.
Non,
voilà, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Si tu veux, tu démarres un truc sympa, tu pars sur une musique de... Ça va bien se passer, puis au bout d'un moment, bof, ça part en vrille, quoi. La plupart du temps, pour des conneries, quoi. Le mec, il t'a bousculé, légèrement au bar, bof, c'est parti dans tous les sens, quoi. Les fidèles de Port-Bail pourront revenir à ce truc-là, c'est un truc qui a démarré... L'organisateur s'appelait Jean-Philippe Dumonceau, alors je sais pas si j'ai le droit de le citer, donc, il avait fait deux concerts préalables, il avait fait OTH, et Osweiss, en français, puis il s'est lancé avec Castagnier qui a monté la fameuse organisation Overhype. Ils ont décidé de se lancer en festival de travail. Sauf que à l'époque, comme rien n'existait, tu ne pouvais pas te baser sur une structure, sur des gens qui avaient déjà une expérience sur les choses. Donc déjà, il a fallu qu'il trouve un champ, il a trouvé le champ, ensuite. À une semaine en fait, du concert, rien n'était organisé. Il n'y avait pas de scène, il n'y avait pas de sono. C'était vraiment large. Il y avait des groupes qui allaient arriver en une semaine après, il n'y avait rien de fait, quoi. Donc ils ont fait débarquer les autonomes de Paris, quoi. Qui eux ont repris les choses en main, on a monté les palissades, ils ont dû chercher les remorques pour faire la scène, récupérer deux chiottes pour mis quelques personnes. Enfin, c'était vraiment. Ça s'est passé que le. L'organisateur a disparu, il a fait un burn-out juste avant le festival, et il a disparu. Du coup, ça a été laissé un petit peu à celui qui voulait bien s'en occuper au coup pour coup. Sur scène, par exemple, tu n'avais personne qui organisait le passage de groupe. Alors, ce qui fait que je suis obligé avec groupe, mais il y a des groupes comme les Peter n'ont pas joué, Robert Abed n'a pas joué, parce que c'est arrivé 2h du matin, il était complètement blindé, il a sorti des glingues. Comment les Bérus ont joué pour plus de 2 heures, il a quand même fallu, à un moment donné, qu'il y en ait un qui se fâche, je peux leur dire de quitter la scène. C'était vraiment. C'était punk. Pour résumer, c'est vraiment un festival punk dans tous ces états. D'ailleurs, tu verras plus jamais ça. Je sais même pas, je n'ai pas connu mon Marsan, mais j'en ai entendu parler, c'était à peu près le même truc. Il n'y avait rien. C'était la bonne volonté des gens. Si le mec voulait participer à l'expérience, c'est ça. Comme tous les concerts qu'on a fait après. Il avait trouvé des bonnes volontés. Moi, j'ai, bah, Les seuls souvenirs que j'ai des concerts que j'ai organisés, c'est que les emmerdes. Là, pendant le concert, j'ai pas vu de groupe, quoi, pour une seule fois, quoi. Je les entendais. J'étais plus souvent à l'extérieur. On arrangeait avec les flics qui étaient dehors, qui voulaient faire fermer la salle. Tu rentrais dans la salle, fallait calmer les mecs qui étaient en train de se foutre sur la gueule. Tu terminais le concert, donc fallait tout ranger. Parce que là, sur le coup, là, effectivement, tout le monde est d'accord pour venir à ton concert, te filer un coup de main, mais à la fin du concert, t'es tout seul avec ton balai, et puis tu te démerdes, c'était ça. Et tu terminais le lendemain matin au commissariat de police pour t'expliquer sur les dégradations qu'il y avait eu la veille. Pour te dire, Saint-Gilles, ils ont rasé un bar. À Romanche, on a eu le débarquement de la brigade des gendarmes de Bayeux. Et tu peux imaginer, tu démarres un concert, 60 flics qui arrivent bourrés, parce qu'ils étaient là. Un baloche de flics, il y a un mec qui leur a appelé, il dit « Ouais, il y a des mecs qui sont en train de casser à Romanche, ils vont débarquer 60. » Ils sont en train de latter les bagnoles, taper sur les gens, qui voulaient empêcher les gens qui voulaient rentrer dans la Romanche pour aller voir le concert. En leur disant le concert est annulé. Et sur place, essayer de faire peur aux gens, pour pas que les gens aillent au concert. Appeler le maire la nuit, le réveiller pour lui demander si on avait l'autorisation de la salle. Enfin, tu vois, des comme ça, quoi. Toi, Adix, les mecs, ils se tiraient dessus à coups de flingue. À Rennes, à GBH, les mecs, c'est des Normands contre des Bretons, tu vois, c'est même pas, ils se mettent sur des bêtes, et voilà, t'as d'un côté les Normands et les Bretons de l'autre côté, en concert, et GBH a dit, moi j'arrête de jouer, quoi, c'est jusqu'à mon pote, t'étais né à la lumière, tout le monde s'arrêtait de se bastonner, t'as revu à la lumière, c'était la basse première. Moi j'ai fait, je sais pas, une dizaine de concerts, j'ai pas vu un seul des concerts que j'ai fait. Par contre, je suis prévu, vous êtes chez les flics, qui expliquent le lendemain. Mais bon, on a la chance, c'est l'association, donc je sais pas, on a pas eu retour négatif, si tu veux, t'as pas eu à payer les dégâts. Enfin, je l'ai payé déjà, parce que c'était de la poche, quoi. En même temps, c'est pas le bar où il est rentré qui permettait de retourner sur ses pieds. Mais bon, c'était épique, fallait le faire, c'était soit tu te faisais, comme je disais, si va pas à moi, faut que j'aille à toi, donc autant que je te fasse venir, et puis j'en fasse profiter à l'époque, parce qu'en fait c'est les chantants qui montaient à Cherbourg, en fait les gens découvraient Cherbourg. Oui. Mais après c'est ça, je n'ai plus, parce que...
Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'événements non plus, même quand on fait un concert par an, c'est un peu l'événement.
Pour l'avoir vécu par bail, je confirme, c'était le plus punk que j'ai pu en Loubar. Celui-ci, 1000 personnes dans le bourg qui passaient d'un bar à l'autre, c'était que des punks et des skis. C'est hallucinant. Il y en a qui venaient de Belgique, il y en a qui
venaient d'Angleterre, de Lyon. Toute la France, tu vois, pour te dire, c'était déplacé pour un truc en 85. Au bout milieu de la Manche, en haut de la Manche, les gens étaient venus au Lyon, comme tu dis, il y en avait qui étaient redescendus en Angleterre exprès pour le festival. Quoi. C'était, voilà, c'était un moment à vivre, et les gens qui l'ont vécu, je pense que ça restera, c'est gravé à tout jamais. Moi je sais que la semaine, la veille, tu avais des Béru qui sont arrivés, c'était Lindbergh, la page du Lindbergh, c'était juste à côté de Port-Bail, c'était là où on terminait le soir, en se disant pour organiser, en fait, ça bechetonnait, bon, putain. Quoi, tu repartais de là-dedans, tu étais secoué, quoi. Tu dormais dans les dunes. Et les Bérus débarquent, toc, pour la veille du concert ou la veille du festival. Quoi. Ils ont vu l'ambiance, toc, ils ont été chercher de matos dans du camion, toc, ils se sont installés dans le milieu du bar. Et on a eu un concert improvisé des Bérus au milieu du bar la veille du festival. Quoi. Voilà, c'était cette petite touche punk qu'il y avait, cet anticonformisme. Ce refus d'établissement, de rentrer dans des cases, il fallait que tu aies un profil. Moi, c'était ma vie, tu sais, ça me faisait chier à chaque fois que je mangeais à Paris. C'était une galère, comme je disais. Partir à un concert, maintenant tu ferais ça, tu serais magnifique. Une voiture pleine de gens, de bière, toi, dans une petite bagnole. J'ai lu Trimbaï Trotsky dans une deux chevaux, avec le matos dans le cul d'un deux chevaux, comme un deux chevaux. Comme ça,
on retrouvait la même chose à Lisieux.
Ouais, c'est ça, quoi. C'était...
C'était très, très compliqué d'organiser des concerts. Il y avait l'assaut Warek qui en faisait pas mal. Très rapidement, il y a eu des problèmes. Et la municipalité de Lisieux, qui est donc de fin 80, ça doit être 88, 89, a tout simplement décidé d'interdire les concerts punk rock à Lisieux. Donc c'était, il n'y avait plus moyen. C'était après, bon, après les passages, le premier concert dont je parlais, Souris déglinguée, Météores, après il y a eu les Bérus, etc. Et voilà, donc on ne pouvait plus jouer à Lisieux. Je me rappelle, j'en parlais tout à l'heure, d'un concert qu'on organisait dans les villes environnantes pour essayer de faire quelque chose pour que ça bouge. Mais il fallait vraiment se battre pour réussir à organiser quelque chose. C'est vrai que c'était jamais très simple. Bon, voilà, on était obligé de faire tout par nous-mêmes. C'était le mot d'ordre à l'époque. On se débrouille nous-mêmes, on organise nos concerts, on trouve une salle, et puis c'est parti.
Ça
Et voilà, donc c'était, on parlait, je crois que vous avez parlé du Do It Yourself après, enfin, c'était déjà ça, quoi. On était déjà dans l'organisation très artisanale. Nous, quand on a, au niveau du groupe Les Primitifs, quand on avait sorti notre premier 45 tours, c'était avec le label Zébulon Records d'Alternative, enfin voilà, ça s'est monté tout seul, ça s'est monté de façon très, très artisanale au départ, et bon. Il fallait se bouger, quoi. Et c'est vrai qu'au niveau des réseaux, il n'y en avait pas. C'était assez compliqué.